Washington, 21h à Ouagadougou et à Dakar. Bienvenue dans Sahel+, présenté par Claire Morin-Gibourg. Bonsoir à tous. Aujourd'hui au sommaire de Sahel+. Soudan du Sud, les négociations pour tenter de trouver une solution au conflit ont repris à Addis Abeba en Éthiopie. Suite du sommet États-Unis-Afrique à Washington, alors que Barack Obama rencontre les leaders africains, rien n'est prévu avec la société civile. Nous entendrons également des réactions d'Afrique, aujourd'hui du Burkina Faso.
Les gens pensent que durer dans le pouvoir, c'est ça qui va développer le pays. C'est pas ça. Donc moi, ce que je vois, Obama, il n'a qu'à le dire la vérité. Mandat doit limiter 2 fois.
Notre correspondant à Ouagadougou, Zoumana Wonogo, a recueilli des témoignages. Nous reviendrons également sur l'interview exclusive de La Voix de l'Amérique avec Macky Sall, le président de la République sénégalaise. Mais auparavant, voici le bulletin d'information.
Bonsoir à tous, Jean-Roger Bion à ce microphone au second jour du sommet qui réunit à Washington 50 pays africains et les États-Unis. Barack Obama a annoncé 33 milliards de dollars de nouveaux engagements. Ce chiffre cumule aide publique et investissements privés en faveur de l'Afrique qui vont contribuer au développement du continent africain et à la création d'emplois aux États-Unis. Le chef de l'exécutif américain a évoqué la nécessité de la bonne gouvernance en Afrique, Barack Obama.
Capital is one thing. Development. Programs and projects are one thing, but rule of law.
Développements sont une chose, mais la primauté du droit, la réforme des réglementations, la bonne gouvernance, ces choses-là sont plus importantes parce que les gens devraient être capables de commencer leurs affaires, les mettre en route sans avoir à payer des dessous de table ou embaucher le cousin du pont. Voilà, c'était le président Barack Obama au deuxième jour de la rencontre avec les chefs d'État africains. Au Mali, un élu municipal de la localité de Kidal, dans le nord-est du Mali, a été enlevé aujourd'hui par des hommes armés à son domicile. La victime se nomme Abda Ag Kazina et occupe la fonction de premier adjoint au maire de Kidal, selon des informations recueillies auprès de sa famille. Selon l'AFP, une source militaire de la mission de l'ONU à Kidal a confirmé l'information. En Sierra Leone, des centaines de soldats ont été déployés autour des centres de santé traitant des malades atteints par le virus Ebola pour tenter d'empêcher la propagation du virus. Les centres de soins pour les malades de l'Ebola sont désormais en quarantaine. C'est ce qu'a annoncé la présidence de la République et des centaines de soldats bloquent donc l'accès. Les autorités sierra-léonaises essaient ainsi d'éviter la propagation du virus Ebola. Certaines familles ont ramené des malades chez eux sans avis médical, ce qui a favorisé de nouvelles contaminations.
La Voix de l'Amérique, en direct de Washington.
Un général américain a été tué dans une attaque perpétrée par un soldat afghan dans un complexe militaire près de Kaboul. C'est le plus haut gradé américain à tomber dans le pays depuis le début du conflit en 2001. L'assaillant a été tué après qu'il a ouvert le feu, a précisé le porte-parole du Pentagone, le contre-amiral John Kirby. Il portait un uniforme de l'armée afghane et a blessé aussi d'autres militaires américains et des membres des forces internationales, dont un général de brigade allemand. Les armes se sont tues à Gaza, où une trêve de 72 heures est entrée en vigueur aujourd'hui. Entre-temps, les efforts se multiplient pour parvenir à un accord durable et à la fin du conflit entre Israël et le Hamas palestinien. On écoute l'envoyé spécial de la VOA à Gaza, Scott Bob.
Le cessez-le-feu a l'air de tenir pour le moment. Ce matin, quand je suis passé par une zone d'interpellation, je n'ai vu aucun signe de militaire israélien, ni de char, ni de personnel. Et d'après les militaires israéliens, ils se sont retirés. Ils ne sont pas loin de la frontière avec le Gaza, mais ils se sont retirés du territoire gazéen complètement. Le gouvernement israélien a annoncé que sa délégation qui attendait à Tel Aviv et à Jérusalem irait au Caire pour joindre les délégations palestiniennes pour entamer les négociations sur un cessez-le-feu plus long et peut-être plus dur.
Scott Bob, l'envoyé spécial de la Voix de l'Amérique à Gaza. La Russie a augmenté considérablement l'effectif de ses troupes à la frontière de l'Ukraine ces derniers jours. C'est ce qu'annonce l'OTAN, précisant que l'armada russe dans la zone compte maintenant environ 20 000 soldats avec des chars d'assaut, des hélicoptères, avions de combat, des unités d'infanterie et des forces spéciales. Selon l'Ukraine, la Russie a maintenant 45 000 soldats près de la frontière. Entre-temps, Kiev se prépare à reprendre la ville de Donetsk, le dernier des deux bastions séparatistes dans l'est de l'Ukraine. Et puis en Chine, les efforts de secours se poursuivent dans la région de Yunnan, où un séisme a fait dimanche au moins 410 morts et de nombreux blessés. Selon l'agence Chine Nouvelle, le tremblement de terre a détruit 80 000 maisons et endommagé 124 000 autres. Vous écoutez La Voix de l'Amérique, place maintenant à Sahel+.
Retour à la partie magazine de Sahel+, sur la Voix de l'Amérique. Nous ouvrons avec le Soudan du Sud. Les négociations pour tenter de trouver une issue au conflit sud-soudanais ont repris lundi à Addis Abeba. Mais la situation sur le terrain reste précaire. Lionel Gaïma.
Les pourparlers de paix ont repris hier dans la capitale éthiopienne après plusieurs mois de conflits au Soudan du Sud. Des combats intenses ont lieu depuis dimanche dans la zone de Bounj, dans le nord-est du pays. Et un travailleur humanitaire a été tué. La mission de l'ONU au Soudan du Sud, la MINUS, a condamné les violences et s'est dit profondément inquiète de la détérioration de la situation à Bounj, où les humanitaires viennent en aide à 125 000 réfugiés. Selon l'accord signé le 10 juin entre le président Salva Kiir et son ancien vice-président Riek Machar, les deux camps ont jusqu'au 10 août pour former un gouvernement de transition. Aucun des deux cessez-le-feu signés en janvier et en mai n'a été appliqué. Ce conflit a déjà fait des dizaines de milliers de morts et 1,5 million de déplacés. D'autre part, selon plusieurs ONG, le pays est au bord de la famine.
Vous êtes bien à l'écoute de Sahel+, sur la Voix de l'Amérique et sur le 101.7 FM, notre fréquence à Bangui. Second jour pour le sommet historique États-Unis-Afrique qui se déroule ici à Washington, aux États-Unis. Barack Obama a rencontré les leaders africains aujourd'hui, mais rien n'a été organisé avec la société civile. Reportage de l'envoyé spécial de La Voix de l'Amérique, Nicolas Pineau.
Oui, c'est le vice-président américain qui a ouvert le bal lors du forum de la société civile. Joe Biden a déclaré que sans elle, il n'y avait pas de démocratie. Problème cependant pour l'administration américaine, cette même société civile ne sera pas présente lors du dialogue entre Barack Obama et les présidents africains mardi et mercredi. Un raté selon le Nigérien Ali Idrissa, coordinateur national du réseau des organisations pour la transparence et l'analyse budgétaire au Niger.
Je crois que c'est quand même l'administration américaine doit se dire que c'est une erreur grave à ne pas pouvoir impliquer la société civile dans une rencontre où il y a les chefs d'État africains. Aujourd'hui, la voix de la société civile en Afrique compte. Ça compte dans le cadre de pouvoir pousser à une bonne gouvernance, surtout de nos ressources. Aujourd'hui, surveiller la gestion de ces ressources, on ne peut pas exclure la société civile dans ce dialogue.
De nombreux chefs d'entreprise participeront à ce sommet placé sous le thème d'investir dans la nouvelle génération. Selon les chiffres de la Banque africaine de développement, l'espérance de vie a augmenté en Afrique. Elle était en moyenne de 58 ans en 2011. Même chose pour le taux de scolarisation primaire qui a atteint 77%. Écoutons Donald Kaberuga, le président de la BAD.
Entre 2005-2006, on a eu beaucoup d'investissements dans ce qu'on appelle le domaine extractif, donc de mines, le pétrole, le gaz. Et puis après, c'est étendu au domaine des services, et surtout technologies d'information, des infrastructures, des services divers.
Selon la fondation Mo Ibrahim, la bonne gouvernance aussi a fait des progrès dans 46 pays africains sur 52 entre 2000 et 2013. Cela prend en compte la sécurité, le respect de la loi, les droits de l'homme et les progrès économiques. Voici le milliardaire soudanais Mo Ibrahim.
On note que 94% des Africains aujourd'hui vivent sous des meilleurs gouvernements que 10 ans auparavant. C'est la mesure de la bonne gouvernance, donc on avance. La bonne gouvernance progresse et c'est ça la bonne nouvelle concernant l'Afrique.
Nicolas Pineau, Washington, La Voix de l'Amérique.
Nous continuons notre tour d'horizon des réactions africaines à ce sommet USA-Afrique. Qu'en pensent les Burkinabés? Notre correspondant à Ouagadougou, Zoumana Wonogo, a recueilli leurs impressions.
Salam Ouedraogo, Barack Obama, vraiment, c'est un président exemplaire. Que si depuis la nuit des temps, on en avait eu des présidents de ce genre-là, on n'était pas à ce stade. Mais maintenant, la relation qu'il a avec les chefs d'État africains, ça nous a beaucoup plu de pouvoir les approcher de cette manière. Et si réellement ils vont prendre la voie qu'il aura suggérée, ça va nous sauver bien sûr. Mais la question est de savoir comment ils vont accepter les propositions de ce président qui veut nous sauver.
Ça va, Patrice. Ce que je vois, Obama, il est en train de faire une bonne chose. Parce que les gens pensent que durer dans le pouvoir, c'est ça qui va développer le pays. C'est pas ça. Donc moi, ce que je vois, Obama, il n'a qu'à le dire la vérité. Mandat doit limiter deux fois.
Moi, je m'appelle Konkobo Bassama, secrétaire administratif de l'Union des travailleurs domestiques et gardiens du Burkina. C'est une bonne chose que l'Afrique et l'Amérique se rapprochent, puisque fort longtemps, l'Afrique était le valet de l'impérialisme français, où c'est la France seulement qui décidait. Je me rappelle l'ancien président Omar Bongo disait que l'Afrique sans la France, c'est comme un camion sans carburant. Mais maintenant, si en coopération, l'Amérique veut s'intéresser à l'Afrique parce que les Chinois sont venus pour envahir l'Afrique, la génération future n'a plus d'espoir. Moi, en tout cas, je le cautionne. Je crois qu'il veut consolider les institutions.
Wesley Oulon, je suis ancien directeur de la Radio Nationale du Burkina Faso. Les collègues, les amis avaient commencé comme ça à me surnommer Obama. Et dans la foulée, il a pris fonction en janvier. Et en février, j'ai été propulsé à la direction de la radio. C'est pour moi un rattrapage pour un frère africain comme les gens ont voulu voir en lui et qui, au terme de son premier mandat, n'a pas pu réellement mettre quelque chose qui est sa marque, une manière de créer un cadre de développement économique. Je ne vois pas beaucoup le caractère politique comme beaucoup penseraient.
Moi, je suis Nabil Gilbert. Mais néanmoins, ce que moi je vois tout simplement, c'est sur la question de limitation du mandat. Au moment qu'ils vont faire leur constitution, ils devraient réellement dire un mandat renouvelable une seule fois, cadenassé, verrouillé, terminé. Vraiment, ce que Obama vient de faire tout de suite, qu'il mette ça en idée de toutes les choses, les chefs d'État de l'aide qui seront devant lui.
Ouagadougou, où vous nous écoutez sur le 102.4 FM. Parmi les chefs d'État africains présents à ce sommet, le président Macky Sall du Sénégal, président du comité d'orientation des chefs d'État et de gouvernement du NEPAD. Idrissa Sédoudia a demandé au président Sall ce qu'il attendait de cette rencontre entre le président Barack Obama, ses homologues africains et lui-même.
Ce sommet convoqué par le président Obama, qui est un sommet convoqué pour la première fois sous ce format entre l'Afrique et les États-Unis, va certainement être un moment de déclic pour apporter des réponses attendues sur notre coopération commune entre l'Afrique et les États-Unis, sur les thèmes qui sont actuels, la sécurité et la paix en Afrique, les thématiques sur la jeunesse, l'avenir du continent, mais surtout sur l'investissement. Puisque depuis plus de 10 ans, depuis la mise en place de l'AGOA, nous avions compris que l'avenir des relations, c'était moins l'aide que le partenariat à partir de l'investissement et du commerce. Mais il y a des obstacles. 10 ans après, 12 ans après, nous devons faire le point et donner une nouvelle dynamique à cette coopération entre l'Afrique et les États-Unis. Je pense que ce sommet apportera, entre autres, ces sujets d'actualité et donnera des perspectives pour l'avenir des relations entre l'Afrique et les États-Unis.
Monsieur le Président, comme vous le savez, nos auditeurs s'intéressent beaucoup à l'expérience démocratique sénégalaise. Donc, il y a des sujets d'actualité dont on aimerait discuter avec vous. Et le procès de Karim Ouad qui s'est ouvert récemment à Dakar, la semaine dernière, pour tout dire. Naturellement, je ne vais pas vous poser des questions qui pourraient compromettre l'intégrité de la procédure. Je voulais tout simplement vous demander, puisque c'est assez rare en Afrique, on a vu l'exemple de l'Égypte, par exemple, mais c'est assez rare en Afrique, pourquoi avez-vous décidé justement de le juger ?
De le faire juger, la nuance est très importante, de le juger. Il appartient à la Cour de juger, à la justice de lire le droit. Oui, moi, j'ai en charge, en tant que président de la République, la politique du pays. Et dans la politique, vous avez la politique judiciaire. Dans cette politique que moi, j'ai initiée, il y a déjà dans mon programme de candidat la reddition des comptes et le fait également que tous ceux qui sont dépositaires de mandats publics doivent désormais pouvoir rendre compte. C'est un principe de base en démocratie. Et j'ai mis en place des dispositifs déjà pour notre gouvernance à nous. Depuis lors, nous avons créé l'OFNA, qui est l'Office national de lutte contre la fraude et la corruption. qui est aujourd'hui en pleine croissance et qui va recevoir l'ensemble des déclarations de patrimoine. Moi-même, j'ai fait ma déclaration de patrimoine, c'est la première fois que ça se fait au Sénégal. Et l'ensemble des assujettis, c'est-à-dire des personnels qui gèrent, ou des autorités qui gèrent des fonds publics supérieurs à 2 millions de dollars, par exemple, sont tenus de faire une déclaration de patrimoine. Donc ça, c'est une dynamique nouvelle que j'essaie d'imprimer, qui n'est destinée contre personne. Mais c'est plutôt pour le bonheur du Sénégal et pour la préservation de ses ressources. Imaginez que dans 10 ans, que cela redevienne le principe et que mais c'est toute notre économie qui va bénéficier et c'est toute la société sénégalaise qui gagnera dans ce principe. Donc, mais comme nous sommes en phase de démarrage, les transitions sont difficiles, mais très vite, les gens se rendront compte que c'est ça la norme. Aux États-Unis, ça se fait, ça ne dérange personne. Mais nous, nous venons de le commencer. Donc c'est normal qu'il y ait des difficultés. Mais je pense que dans quelques années, tout le monde comprendra que si on veut prendre un mandat public, il y a des contraintes. Et soit on accepte d'y aller avec les conséquences, c'est-à-dire on n'a plus la liberté de faire ce qu'on veut. On doit rendre compte régulièrement, on doit faire la reddition et au besoin, à la fin de son mandat, on doit aussi faire une nouvelle déclaration de patrimoine. Donc ça, c'est vraiment dans la gouvernance que j'ai initié cela. Je sais que ça ne plaît pas, y compris dans mon propre camp, puisque les gens ils considèrent que le pouvoir, c'est l'exercice aussi des privilèges. C'est le lieu où on doit pouvoir se réaliser selon sa volonté. Or, malheureusement, ce n'est plus le cas.
Le président sénégalais, Macky Sall. Sahel Plus, c'est fini pour aujourd'hui. À la réalisation, Josèle Morissin. À la console, Skip Sisk. Au micro, Claire Morin-Gibourg. Nous nous quittons en musique avec Somebody de Djanka Nabey de Sierra Leone, figure de la boubou music, une musique traditionnelle musulmane. Rendez-vous demain à 21h, temps universel sur La Voix de l'Amérique ou d'ici là sur nos pages Facebook ou Twitter, VOA Sahel+. Bonne soirée et bonne nuit à tous. Somebody go, hey, are you? New York, hey.